agriculture biologique. Environnement, zéro déchet, développement durable. Vous souhaitez communiquer, partager vos actions, parler de vos projets sur l'antenne de Radio Alpementcel 106.3 FM.
Juste pour que ça dure.
Mon Bio Ecomag vous informe sur différentes initiatives et expériences en faveur de l'environnement et du développement durable sur notre territoire.
Juste pour que ça dure.
Contactez le 02 43 33 24 56, le 02 43 33 15 15.
Juste pour que ça dure.
Écoutez Radio Alpementcel sur le 106.3 FM, votre radio associative en territoire Haute-Sarthe-Alpementcel. Consultez son site internet et rejoignez-nous sur la page Facebook de Radio Alpementcel.
À présent, nous recevons sur notre antenne Sabrina Poirier, directrice de France Nature Environnement Sarthe. Madame Poirier, bonjour.
Bonjour.
Nous vous retrouvons aujourd'hui afin de parler éco-gestes et ainsi sensibiliser et conseiller nos auditeurs à ceci. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un éco-geste et pourquoi est-il important d'en faire ?
Alors, un éco-geste, en fait, c'est quelque chose que l'on fait très souvent. C'est un geste qui va permettre de faire des économies d'énergie ou d'eau. Très souvent, c'est plutôt lié à des gestes du bon sens que réalisaient, par exemple, nos grands-parents. Voilà, c'est des gestes qu'on a perdus avec le temps parce que les choses se sont simplifiées. Pourquoi c'est nécessaire de faire des éco-gestes ? Eh bien, ce qui est important, c'est de limiter les consommations qui sont dites inutiles, puisque, en fait, parfois, par exemple, le premier qui nous vient à l'esprit très souvent, c'est couper les veilles. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir des appareils en veille quand on ne les utilise pas. Et donc, l'objectif, c'est grâce à ça de réduire nos factures, que ce soit d'eau ou d'électricité, ou même de gaz, par exemple.
Afin d'illustrer ces propos, je vous invite à nous donner quelques exemples concrets, en parlant peut-être dans un premier temps d'un point de vue général.
Oui, alors il y a deux choses que j'ai en tête. Donc la première dont je viens de parler, donc couper l'éveil de nos appareils. Donc la plupart des appareils, on peut les brancher sur des multiprises dotées d'interrupteurs. Comme ça, ça nous évite d'aller éteindre l'appareil si le bouton on-off est inaccessible. Et ça permet voilà de contrôler sur des gestions centralisées, par exemple, tout ce qui est associé au multimédia. Et bien, si on a tout branché sur une même multiprise, quand on n'utilise plus les multimédias, on peut couper. Et puis, deuxième chose, c'est éteindre la lumière quand on quitte une pièce. Donc, en fait, ça sert à rien d'éclairer des pièces vides. Et dont l'importance, voilà, c'est d'éteindre systématiquement quand on sort d'une pièce.
Ça me fait penser à ce moment-là à mon fils qui me dit toujours « Maman, c'est pas Versailles ici ».
Oui, c'est vrai que la publicité nous permet de mémoriser grâce à ces petites phrases. En effet, c'est pas Versailles la plupart du temps chez nous. Et cumuler l'éclairage, c'est quand même un poste de consommation qui est assez important. C'est le troisième poste de consommation dans le logement. Donc c'est pas négligeable, même si on a des ampoules LED. Il faut quand même réduire les consommations inutiles. Et puis, de manière générale, vérifier la température selon les pièces. Donc, on parle de régulation où on ne va pas forcément avoir les mêmes besoins de chauffage en fonction des pièces où on est présent. Donc, par exemple, les pièces de vie, donc je pense à la salle à manger, au salon, on va plutôt maintenir à 19. Ça sert à rien de trop chauffer au-dessus. Et pour la plupart des logements, passer de 20 à 19 degrés, c'est 7% de consommation en moins. Donc c'est pas négligeable du tout. Et pour des pièces comme par exemple la chambre, plutôt réduire à 17 ou 16 degrés. Ce qui permet de dormir, je dirais, dans des bonnes conditions, sous une couette bien chaude pour l'hiver, qui permet au corps d'être bien. Quand la chambre est utilisée comme un bureau, notamment pour les enfants, là, dans ce cas-là, en effet, il faut plutôt monter le chauffage entre 19 et 20 degrés, parce que très souvent, quand on va travailler voilà, sur son bureau, on va moins bouger, être un peu moins dynamique, et donc on aura tendance à ressentir le froid comme un inconfort. Donc l'objectif des éco-gestes, c'est de ne pas être dans l'inconfort, c'est regarder autrement ce que l'on peut faire au quotidien, tout en restant dans un confort qui est très correct en fait.
Pour économiser et pour moins polluer, des tas de gestes aisés, rien de bien compliqué. Quand je brosse mes quenottes, je ferme la robinette pour poêler, s'écouler, c'est tout qui va manquer. Plutôt que la baignoire, je préfère la douche. Et puis je coupe le son quand je prends le savon. La nuit, je n'allume pas l'endroit où je ne suis pas. C'est vraiment débile de tuer les moustiques. Pour économiser et pour moins polluer, des tas de gestes aisés, rien de bien compliqué. Quand j'écris ou dessine la feuille sur ma mine, je joue à pile et face à galerie. Il y a de la place à soit s'aimer, soit souquer. J'évite d'imprimer autant d'arbres sauvés, ça de moi à couper. Et même dans les WC, faut pas gâcher le papier. La feuille, je peux plier et encore replier. Pour économiser et pour moins polluer, des tas de gestes aisés, rien de bien compliqué. Avant de les jeter, je trie tous mes déchets, car la majorité peut être recyclée. Mais dis-les usagers aux endroits indiqués. Dans les supermarchés, je peux les déposer. Pour mes vieux appareils, dis-tout, je fais pareil. Hors des mobiles, télé, seront récupérés. Pour économiser, pour moins polluer, des tas de gestes aisés, rien de bien compliqué. Je ne jette rien par terre, merci pour l'atmosphère. Poubelle dans tous les coins, c'est pas fait pour les chiens. Car pour me déplacer, mon vélo ou mes pieds, ou même ma trottinette et la santé, je fais comme des arbres et les fleurs. À toucher mon bonheur, celui des animaux et de l'oxygénaux. Aidez-moi, citoyen, pour de meilleurs demain. Je dis à ces messieurs qui ne pensent qu'à eux, qui fabriquent, qui polluent, qui profitent et qui puent. Pensez à nos enfants tant qu'il est encore temps.
On compte sur vous.
On a parlé de la plupart des pièces de la maison, mais on n'a pas parlé de la salle de bain.
Oui, alors la salle de bain, en général, quand on l'utilise, on va plutôt monter à 22 degrés, parce que bah voilà, quand on sort de la douche ou du bain, on pourrait avoir froid. Et donc, pour le reste du temps, on peut réduire la température. Ce qui est important aussi, c'est de compléter la ventilation. Donc si on a une bonne ventilation, on va éviter de calfeutrer les grilles d'aération, donc les grilles d'entrée d'air. Et si on a une fenêtre dans la salle de bain, ce qui est bien, c'est après la douche ou après le bain, c'est d'ouvrir en grand pour bien aérer et permettre à l'humidité de s'évacuer. À savoir que de manière générale, plus l'air est humide dans les pièces, plus il va nécessiter de l'énergie pour chauffer. Donc certaines personnes pensent que de boucher les grilles d'aération, donc les grilles d'entrée d'air qu'on va retrouver plutôt dans les pièces sèches, chambre, salle à manger, salon, apportent du froid, mais en fait ils apportent un renouvellement d'air et notamment permettent d'aider le système de ventilation à évacuer l'humidité. Et donc au final, même si on a une impression d'entrée d'air froid, on va moins consommer d'énergie pour se chauffer parce que l'air sera moins humide. Et donc il nécessitera moins d'énergie pour chauffer l'air ambiant de notre logement. Des petites choses aussi, dans la salle de bain, c'est bien de régler la robinetterie de manière à ce qu'il n'y ait pas de fuite, parce que les fuites au quotidien permettent des grosses consommations et des facturations beaucoup plus élevées. Et puis, on peut regarder sur l'achat de ce qu'on appelle des mousseurs ou réducteurs des débits, qui sont assez importants. Aujourd'hui, il existe sur le marché des réducteurs de débit avec une réduction forte. Par exemple, on a des 2 litres par minute. Donc, ce qui fait que bah, pour se laver les dents ou se laver les mains, ça suffit en fait. Par contre, dans la cuisine, on peut avoir des réducteurs de débit qui ont un débit un peu plus élevé quand on veut alimenter une casserole d'eau, etc. Pour continuer dans la salle de bain, une chose qui est plutôt sympa, c'est d'avoir un gobelet pour se rincer les dents, plutôt que de laisser couler l'eau. En fait, on va, comme ça, on va consommer que l'eau du gobelet et on va maîtriser les consommations. Et puis, entretenir régulièrement aussi ces grilles d'aération. Donc, en fait, là, on va avoir les entrées d'air au niveau des VMC et faut les dépoussiérer régulièrement. Ça permet à l'air d'être aspiré dans sa totalité. Et ça évite le cumul de poussière qui sont pas forcément bons pour la santé.
Je ne sais pas si ça fait partie des éco-gestes, mais est-ce qu'on peut réutiliser ou non l'eau du bac du sèche-linge ?
Alors, je pense que ça a évité, malgré tout, parce que votre linge, il a eu des produits, etc. Donc si vous les utilisez pour l'arrosage ou autre, selon les produits que vous avez mis pour laver votre linge ou si vous avez rajouté des systèmes additionnels pour que votre linge sente bon dans le sèche-linge, il vaut mieux éviter. De plus, si vous pouvez favoriser le séchage à l'air libre, et donc plutôt à l'extérieur parce que le linge va apporter de l'humidité dans le logement. Donc, comme je le disais à l'instant, c'est pas forcément bon pour apporter de l'énergie pour se chauffer, donc on va consommer plus. Et en fait, il y aura des polluants qui seront mis. Donc sécher le linge à l'air libre, c'est beaucoup mieux. C'est moins consommateur d'énergie. Le sèche-linge est un des appareils les plus consommateurs d'énergie parce que il va devoir retirer l'humidité pour sécher et c'est ce qui fait que c'est un des appareils les plus consommateurs. On va aussi, si on n'a pas le choix, favoriser l'essorage. Un essorage permet de faire des réductions sur le sèche-linge puisque en fait plus on va essorer le linge, moins il y aura d'eau et donc plus ça sera facile de faire sécher plus rapide. À savoir que l'essorage peut être plus 100 fois plus économe que le sèche-linge dans le sèche-linge. Donc c'est vraiment important d'essorer au maximum des capacités. Bien sûr, il faut regarder les étiquettes des vêtements. Certains vêtements ne vont pas apprécier un essorage fort. Donc il faut vraiment faire aussi en fonction des vêtements que vous avez. Donc si on a un endroit abrité qui permet de pouvoir étendre le linge à l'extérieur, c'est vraiment ce qu'il y a d'idéal.
Là, nous avons parlé de la salle de bain de manière plus spécifique. Est-ce qu'il y a une autre pièce dans la maison où on pourrait apporter des éco-gestes ?
Oui, alors une part importante à mon sens, c'est le côté cuisine où en fait on a beaucoup de gestes à voir. Donc un premier qu'on a tendance à oublier avec le temps, c'est le réfrigérateur. Le réfrigérateur, faut pas le coller contre un mur parce qu'en fait, la grille arrière dégage de la chaleur. Et en fait, si on empêche qu'elle se dégage bien, cette chaleur, l'appareil, le réfrigérateur aura tendance à surconsommer. De même, dépoussiérer régulièrement cette grille arrière, parce que la poussière va faire comme un isolant et va empêcher cette chaleur d'être vraiment diffusée. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un réfrigérateur, son objectif, c'est pas de refroidir, mais c'est d'absorber la chaleur dans le compartiment. Et en fait, en absorbant cette chaleur, il a besoin de l'évacuer. Il l'évacue par cette grille arrière. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est de positionner le réfrigérateur à environ 5 cm d'un mur, de manière à ce qu'il y ait un dégagement de cette chaleur. Le dépoussiérage peut se faire, je dirais, une fois par an. Si on voit qu'il y a beaucoup de poussière une fois par an, on peut le faire une fois tous les 6 mois. Ça permet de vérifier régulièrement si on a beaucoup de poussière ou non. Si le réfrigérateur n'a pas de système de dégivrage, il faut dégivrer régulièrement le réfrigérateur. Parce qu'en fait, 2 mm, entre 2 et 3 mm, c'est 30% de consommation en plus. Donc le givre apporte vraiment une surconsommation de l'appareil. On ne s'en rend pas compte parce que 2 à 3 mm de givre, ça semble être pas grand-chose. Sauf que en fait, ça apporte beaucoup en surconsommation de l'appareil. Donc là, au niveau de la fréquence, ça va vraiment dépendre des appareils de froid que l'on possède. Certains qui ont des joints un peu plus défectueux vont avoir un givre qui va se favoriser le plus souvent. Si on a tendance à mettre des aliments sans les mettre dans des boîtes hermétiques, c'est pareil, en fait, on va favoriser de la vapeur d'eau dans le réfrigérateur et de fait du givre. Et puis, pour certains, ils ont des appareils qui ont des dégivrages automatiques. Donc là, il n'y a pas besoin, je dirais, de vérifier, de s'embêter, si ce n'est que souvent il y a un réceptacle de condensation et il faut le nettoyer régulièrement et absorber l'eau si celle-ci n'a pas réussi à s'évacuer convenablement dans le réfrigérateur, de manière à limiter également les surconsommations. Alors voilà pour, je dirais, les grands gestes du réfrigérateur, donc à savoir que pour vérifier un joint défectueux, donc ça c'est pour la plupart des situations, vous pouvez le faire simplement en utilisant une feuille de papier. Vous coincez votre feuille de la porte et donc du réfrigérateur et le réfrigérateur et vous essayez de tirer cette feuille. Si la feuille arrive facilement, ça veut dire que le joint n'est pas en contact direct avec la paroi et donc en fait vous avez des entrées d'air potentielles. Si vous avez des difficultés à tirer, que vous voyez qu'il y a une sorte de pression qui se met en place, ça veut dire que le joint il est encore en bon état. Parfois les joints, on peut les changer par soi-même, donc après à vérifier selon l'âge du réfrigérateur et puis si vous trouvez la pièce facilement. Autre chose, la cuisson. Donc la cuisson, c'est important de couvrir les plats. Par exemple, pour faire bouillir de l'eau avec un couvercle, on va consommer 4 fois moins d'énergie pour chauffer son eau. De même, c'est inutile de faire bouillir trop d'eau pour la cuisson, par exemple, des pâtes. Il faut vraiment avoir la bonne quantité d'eau nécessaire à ce que vous allez faire cuire, comme pâtes, comme pommes de terre, comme riz, par exemple, de manière à pas chauffer trop d'eau qui vont pas être utilisées derrière. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Couvrir de manière générale tous les plats. En fait, ça, c'est bien parce que là, je parlais de faire bouillir l'eau. Mais en fait, on peut couvrir toutes les cuissons, que ce soit voilà des poêlés ou des casseroles. De même, si on a une bouilloire, faire bouillir l'eau à la bouilloire, puis en fait la mettre dans une casserole d'eau pour faire la cuisson des pâtes, va permettre de faire des économies. La consommation d'une bouilloire va être moins importante, quelle que soit la plaque de cuisson utilisée, donc que ce soit du gaz, de la plaque induction ou d'autres éléments. Même si la puissance de la bouilloire est importante, au final, on va se retrouver avec une consommation moindre parce que l'eau va bouillir plus vite que dans une casserole. De même, en fait, pour l'évier, utiliser le bon réducteur de débit, donc un 6 à 8 litres si on consomme beaucoup d'eau, moins ce serait délicat parce que on mettrait du temps à remplir un pichet d'eau ou la bouilloire, et donc c'est pas forcément intéressant pour l'usage de la cuisine. Après, des petits gestes qui peuvent être intéressants, c'est l'eau quand elle est encore chaude après la cuisson des pâtes ou autre. Si on souhaite désherber, eh bien on peut l'utiliser en utilisant donc l'eau et en en la mettant sur l'herbe que l'on veut tuer. Ça évite les produits phytosanitaires qui sont pas forcément bons pour l'environnement et ça permet voilà de tuer la végétation que l'on ne souhaite pas au bord de notre maison. Quand on cuisine et qu'on a une hotte, c'est important également de l'utiliser systématiquement parce que en fait la cuisine va créer beaucoup de vapeur et donc la hotte va permettre d'absorber à la fois toutes les odeurs et à la fois la vapeur pour éviter d'avoir trop d'humidité dans l'espace cuisine. On n'hésite pas à aérer. En fait, l'aération est vraiment complémentaire de la ventilation. Donc on peut aérer 5 minutes, créer un mini courant d'air, ce qui permet d'évacuer à la fois l'humidité et tous les polluants associés à la cuisson. Donc c'est bon pour la maison, le logement, c'est bon aussi pour nos poumons. C'est bon pour tout le monde, on est tous gagnants par rapport à ça. Voilà à peu près pour la cuisine. Également pour tout ce qui est ustensiles, utiliser le bon feu. On a tendance, si on veut faire bouillir quelque chose très rapidement, on va utiliser la plaque de cuisson qui a le plus gros diamètre et parfois ce n'est pas adapté. Donc en fait, l'usage des casseroles ou poêles doit bien être utilisé sur le bon feu, je dirais, ou le bon diamètre de plaque de cuisson. Ça, c'est également important. Si on utilise un petit feu pour une grosse poêle, par exemple, on va avoir énormément de pertes de chaleur au niveau de la poêle et au final, on va consommer plus, que ce soit du gaz ou de l'électricité, que si on avait utilisé le diamètre adapté. Pour le four électrique ou le four à gaz, de même que le réfrigérateur, on peut vérifier le joint de manière à s'assurer qu'il y ait une bonne étanchéité pour la cuisson. Donc le même exercice que le réfrigérateur, on met une feuille de papier, on referme la porte dessus et on voit si la feuille vient assez facilement, c'est que le joint n'est plus hermétique. On va aussi avoir tendance, selon les appareils qui ont la pyrolyse pour pouvoir se nettoyer, l'idéal, c'est de le faire quand il est encore chaud. Ça va éviter de consommer de l'énergie, que ce soit du gaz ou de l'électricité, pour le nettoyer exprès. Et donc, on va plutôt enchaîner, on a fait cuire un gâteau, par exemple. Une fois qu'il est cuit, on va le mettre en mode pyrolyse pour pouvoir le nettoyer. Il aura déjà la température requise, en tout cas plus rapidement, puisqu'on utilisera la chaleur de cuisson du gâteau. Il faut également, donc, quand on fait cuire notamment un gâteau, donc ça, les amateurs pâtissiers le savent très bien, ouvrir la porte. Donc plutôt préférer l'éclairage de l'appareil et attendre vraiment le temps de cuisson nécessaire. Quand on ouvre la porte, en fait, on va ramener de l'air froid dans le four. Donc déjà, en général, pour le gâteau, ça fait baisser. Et en plus, pour le four, il va falloir réchauffer son compartiment parce qu'il aura eu de l'air froid. Voilà pour l'aspect de la cuisine. De manière générale, pour les ampoules, on vous conseille de les dépoussiérer régulièrement. Ça ne va pas apporter de surconsommation la poussière sur une ampoule, mais par contre, on aura une vision qui sera moins importante. Et donc, on a tendance à devoir les nettoyer régulièrement. Donc, la régularité dépend de l'endroit où on habite. Une fois par an, ça peut être suffisant. Et puis, pour d'autres, s'il y a beaucoup de pollution autour de nous, il y a beaucoup de poussière qui peuvent s'incruster. Et donc, en fait, le dépoussiérage permettra d'avoir l'impression d'avoir mis une ampoule neuve. Donc, bien entendu, on coupe l'électricité, on démonte l'ampoule, on la nettoie avec un chiffon sec de préférence. Et puis après, on réinstalle l'ampoule. Pour éviter les consommations d'eau trop importantes, ou du moins pour éviter de polluer l'eau et avoir un impact sur la facturation du retraitement des eaux, évitez de mettre des produits de nettoyage qui ne sont pas écolabellisés. Les produits écolabellisés permettent de faire attention à l'environnement et finalement d'être retraités assez facilement et donc au final de ne pas trop payer de retraitement sur la facture d'eau. Ah, une dernière chose liée au chauffage, c'est pour les rideaux et les volets. Donc l'hiver, fermez les volets dès que la nuit tombe. En fait, on n'aura plus d'apport solaire, donc ça sert à rien. Les volets vont permettre de faire comme un système, je dirais, d'isolation et permettre de réduire les pertes de chaleur dues aux fenêtres. Pareil pour les rideaux, Vous pouvez les fermer, ça évitera d'avoir l'impression de froid à l'abord des fenêtres. Et attention, les rideaux ne doivent pas tomber dans le radiateur, parce que souvent, ils vont cacher le radiateur et donc empêcher la chaleur d'être émise. Donc, si possible, avoir des rideaux qui tombent juste au-dessus des radiateurs et non sur les radiateurs.
Sabrina, je vous remercie pour ces nombreux conseils et je vous dis à très bientôt sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelles.
À bientôt, merci.
Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les beaux. Existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules, de squatteurs éphémères, maintenant c'est plus trop. Puisqu'il faut changer les choses, quelques baffes à prendre, la veille est pour demain, des baffes à rendre.